L'ASEAN est responsable d'environ 7% du PIB mondial, en tout cas en 2022. Savez-vous ce que c'est que cet ASEAN, cet ensemble d'États des nations d'Asie du Sud-Est, qui regroupe notamment l'Indonésie, mais aussi la Thaïlande, le Vietnam ou encore le Myanmar, l'ancienne Birmanie? C'est précisément le sujet de cet épisode, qui est donc une traduction, une version française d'un épisode enregistré originellement en anglais. Vous l'aurez probablement déjà vu puisque je l'ai diffusé il y a quelques jours quand vous écouterez cet épisode. Le doublage de notre invité aujourd'hui, Alfred Gerstel, a été réalisé par Simon Orellana, que je remercie ici. Bonne écoute! Bonjour à toutes et tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de 20 minutes pour comprendre, le podcast qui vous aide à comprendre l'actualité internationale. Je suis Vincent Gabriel et très heureux de vous accueillir donc, chers auditeurs, pour ce nouvel épisode qui vient donc d'un épisode en anglais et qui fait partie du projet UVIP, l'Union Européenne dans la région de l'Indo-Pacifique, la région volatile de l'Indo-Pacifique. Il s'agit d'une série d'entretiens qu'on a réalisé avec des chercheurs internationaux et aujourd'hui, j'ai le grand plaisir et l'honneur de recevoir Alfred Gerstel. Bonjour.
Merci beaucoup, je suis très content d'être ici.
Vous êtes politologue, internationaliste, spécialiste de l'Asie du Sud-Est et en particulier de l'ASEAN. Vous êtes également à la tête du projet UVIP que j'ai déjà présenté. Vous êtes également le président du Central European Institute of Asian Studies qui est basé à Bratislava. Alors Alfred Gerstel, ma première question sera une question de base parce que nous sommes un podcast de vulgarisation. Est-ce que vous pourriez donc nous expliquer qu'est-ce que c'est au fond que l'ASEAN, pourquoi c'est apparu et quels sont ses membres?
Well, there's a very specific...
Alors, il y a une date très spécifique lorsque l'ASEAN, c'est-à-dire l'Association des Nations de l'Asie du Sud-Est, a été établie. C'était le 8 août 1967. Et ses cinq membres fondateurs étaient Singapour, la Malaisie, l'Indonésie, les Philippines et Thaïlande. Cependant, bien sûr, il y a eu auparavant des années de coopération entre certaines nations du Sud-Est asiatique. Au fait, il faudrait un peu plus remonter dans l'histoire. On pourrait commencer par exemple après la Seconde Guerre mondiale. À cette époque, toutes les nations de l'Asie du Sud-Est étaient des colonies, sauf la Thaïlande. Après 1945, c'était le moment où le Japon avait quasiment conquis toute l'Asie du Sud-Est. Encore une fois, avec l'exception de la Thaïlande. Le Japon battait en retraite, et les puissances occidentales colonisatrices ont essayé de reprendre, de reconquérir leur possession coloniale en Asie du Sud-Est. Bien sûr, les nations de la région n'étaient pas contentes de ça. Il y a donc eu des guerres coloniales, en particulier en Indonésie, le Vietnam et surtout l'Indochine. Qui est quelque chose en particulier en relation avec la France. Cela a donc pris un certain temps pour que les nations de l'Asie du Sud-Est deviennent indépendantes. Certaines d'entre elles de manière pacifique, comme Singapour ou la Malaisie, les autres ont dû se battre pour gagner leur indépendance, comme le Vietnam et l'Indonésie. Au début des années 1950, ces pays ont essayé de coopérer entre eux. À ce moment-là, il y avait encore des conflits entre eux, en particulier des conflits frontaliers. Il y avait aussi une grande méfiance entre ces pays qui dataient des époques coloniales. C'est vraiment lors des années 1950 et 60 que ces pays ont vu la région du Sud-Est asiatique comme une région commune où il était possible de se parler, où il y a des défis communs mais aussi des opportunités. Et pour cela, ils ont établi des institutions régionales. Et la plus prometteuse était l'ASEAN, établie, comme je l'ai déjà dit, en 1967.
Et donc, au tout début, dès les origines de l'ASEAN, son job, son but, c'est d'aider ses États membres à coopérer, c'est ça?
Oui, c'est correct. Au fait, il y a quelques objectifs qui sont déclarés et d'autres qui sont un peu plus cachés. Un des objectifs clés des cinq fondateurs de l'ASEAN était de les isoler de la politique des grandes puissances. En effet, la guerre froide se profile et la position de la Chine n'était pas encore claire. Il en allait de même pour l'Union soviétique et les États-Unis. L'idée, c'était que si ces cinq pays s'unissaient, ils auraient plus d'influence sur la scène internationale. En tout cas, bien plus d'influence que le petit Singapour tout seul. Il faut noter que aujourd'hui, Singapour est un pays avec un PIB bien plus grand que celui de la Belgique, mais ce n'était pas du tout le cas dans les années 50-60. C'était vraiment une nation pauvre et en plein développement. Et il en allait de même avec les autres pays fondateurs de l'ASEAN. C'est pourquoi leur influence au niveau mondial et leur géoéconomie était très faible. Ensemble, bien sûr, ils étaient plus forts. L'idée, c'était vraiment parler d'une seule voix. Aux États-Unis, l'Union soviétique, la Chine, etc. Et l'autre objectif, c'était de coopérer entre eux. Un des objectifs, ça peut paraître étrange, mais c'est un objectif négatif, C'était qu'en temps de paix, il y avait déjà une grosse méfiance entre ces pays. Il y avait la politique de confrontation de l'Indonésie envers la Malaisie. Le Singapour était fortement critiqué par ses voisins. Les Philippines se voyaient accusées d'être trop proches des États-Unis. Ces pays avaient donc besoin d'un forum où ils pouvaient parler ensemble. Et derrière des portes fermées, faire des accords bilatéraux, voire trilatéraux. Et essayer de construire une certaine confiance. La manière la plus facile de construire cette confiance est de commencer par la low politic. C'est-à-dire coopérer dans le domaine de l'économie, de la culture. Et une fois que cette confiance est établie, il est possible d'aller plus loin. C'est la théorie classique du néo-fonctionnalisme. Et l'ASEAN est un cas qui fonctionne.
Alors pour nos auditeurs européens, mais on sait que ce ne sont pas les seuls, on a beaucoup d'auditeurs en Afrique et aussi dans les parties francophones des États-Unis et du Canada, donc on salue tout le monde ici. Donc pour nos auditeurs européens, il y a vraiment un parallèle à faire ici. On parle bien sûr de pays qui vont se mettre ensemble pour essayer de construire une relation de confiance et se reconstruire même économiquement. Donc on parle bien entendu de l'Union européenne. Cette Union européenne, elle s'est créée sur deux forces, deux dynamiques. L'élargissement, qui vise donc à s'agrandir, à avoir de plus en plus de pays qui nous rejoignent, et l'intégration, qui vise donc à donner de plus en plus de pouvoir à cette union, afin d'avoir un sentiment de destin commun. Est-ce qu'en ce sens, on peut dire que l'ASEAN repose sur le même modèle que l'Union européenne? Ou bien est-ce que, et c'est toujours le cas dans les relations internationales, donc je vous vois venir, mais ou bien est-ce que c'est plus compliqué que ça?
Easy answer, yes.
La réponse facile, c'est oui. La deuxième réponse, c'est que c'est un peu plus compliqué. Surtout si on regarde ce qui s'est passé dans les années 90. Après la fin de la guerre froide, il y a une tendance à l'élargissement et à l'approfondissement. Souvenons-nous qu'en 1967, une des motivations, c'était la guerre froide. C'est dire que les cinq membres fondateurs de l'ASEAN étaient pro-occidentaux. Mais ce n'étaient pas des pays démocratiques. Ils étaient pro-occidentaux et strictement anticommunistes. Le Vietnam était donc vraiment regardé comme une menace. Cependant, en 1995, le Vietnam a rejoint l'ASEAN. C'était un message vraiment très fort. C'était la fin de la guerre froide. Nous avons vraiment essayé d'accueillir le Vietnam, de coopérer avec le Vietnam. Il n'y avait plus de peur qu'un pays communiste rejoigne l'ASEAN et propage son idéologie à d'autres parts de l'Asie du Sud-Est. Non, c'était vraiment une coopération très pragmatique. Une des raisons de l'admission du Vietnam, c'était la menace grandissante de la Chine. Déjà dans les années 90, ce n'était pas clair quels étaient les plans du leadership chinois. Dans les années 90, comme en Europe, nous avons vu les opportunités économiques, mais dans l'Asie du Sud-Est, et aussi l'Australie, il y avait un plus grand focus sur les affaires militaires, les investissements chinois et la mise à niveau militaire. Le débat de la menace chinoise, nous avons un débat similaire aujourd'hui. L'histoire se répète souvent, mais les pays voisins en Asie du Sud-Est étaient très inquiets. En même temps, ils offraient tout de même une certaine coopération à la Chine, dans des termes qui s'appliquent encore aujourd'hui. Laissez-moi prendre un peu de recul. Aujourd'hui, nous avons 11 pays en Asie du Sud-Est et 10 d'entre eux font partie de l'ASEAN. Et ils l'ont rejoint dans les années 90. La seule exception, c'est le Timor oriental. De manière intéressante, selon l'indice de démocratie de The Economist, c'est la seule démocratie à part entière d'Asie du Sud-Est.
Et qui n'est pas encore dans l'ASEAN alors?
Alors, pas encore, mais cela va arriver dans quelques années. Officiellement, tout le monde est d'accord, le Timor oriental va rejoindre l'ASEAN. Mais la date précise n'est pas encore précisée. Cela pourrait être 3 ans, 5 ans, ou 10 ans. Mais nous savons que le Timor oriental va rejoindre. Et après cela, les 11 nations de l'Asie du Sud-Est feront partie de l'ASEAN. C'est un message très fort. En plus de l'élargissement, comme ce que l'Union européenne a fait, il y a un approfondissement, une intégration. En particulier dans le domaine économique. Depuis 2015, l'ASEAN s'appelle officiellement la communauté ASEAN. Qui contient trois piliers. Le premier est la communauté de sécurité de l'ASEAN. On peut voir les parallèles à l'Union européenne. Il y a aussi la communauté économique de l'ASEAN et la communauté sociopolitique de l'ASEAN. Cela veut dire société civile, coopération académique, échange étudiants, etc. La coopération la plus poussée, mais pas encore une intégration, est sur le pilier économique. Pour ce pilier, le marché unique européen est le modèle. Mais contrairement à l'Union européenne, il n'y a pas de discussion sur une monnaie commune ou la libre circulation des travailleurs. Il n'y a pas de Schengen, même s'il est plus facile de voyager dans des pays de l'ASEAN. Il y a des fils spécifiques pour les citoyens de pays membres de l'ASEAN. Mais ils doivent tout de même montrer leur passeport. Et je ne pense pas que cela change. Nous avons l'élargissement, nous avons une meilleure intégration, Mais il y a quand même une différence énorme entre l'Union européenne et l'ASEAN. Parce que l'Union européenne est une organisation supranationale, et l'ASEAN n'a pas vocation à devenir ceci.
Et donc, une organisation supranationale, ça veut dire que cette organisation, par exemple l'Union européenne, a la capacité de prendre des mesures, de décider de normes qui vont ensuite s'imposer aux États membres. Donc c'est bien le cas dans l'Union européenne, par un processus législatif qu'on expliquera un jour dans ce podcast. Donc ce que vous voulez dire, c'est que ce n'est pas le cas, donc cette supranationalité, ce fait, cette capacité d'imposer des normes, eh bien, l'ASEAN ne l'a pas.
Il y a des règles et des normes. Oui, elles sont obligatoires, mais il y a un problème que nous avons dans l'ASEAN, mais aussi dans les institutions de l'ASEAN, que l'on voit dans l'Indo-Pacifique. On va en parler dans quelques minutes. Oui, il y a des règles de certaines décisions, mais le problème, c'est de les faire respecter. C'est-à-dire que si un membre de l'ASEAN n'obéit pas à ces règles, il n'y a aucun mécanisme en place, aucune cour de justice internationale qui peut dire « Ok, vous n'avez pas obéi aux règles, maintenant vous devez payer ceci, ceci et ceci ». Ou dire alors que dans les deux prochaines années, vous devez vraiment implémenter cette décision. Il n'y a pas beaucoup de critiques publiques. La technique du naming and shaming, c'est-à-dire nommer et faire honte, n'est vraiment pas utilisée en Asie du Sud-Est.
Peut-être est-ce parce que notamment ce sont des États assez jeunes, j'entends par là qu'ils sont le fruit d'un processus de décolonisation qui n'a pas 100 ans, à peine 50 ans, un peu plus que 50 ans quand même, et donc peut-être cette indépendance, cette décolonisation étant encore récemment acquise, ils n'ont peut-être pas forcément envie d'avoir une puissance supranationale, en tout cas en dehors de la nation et de l'État, qui leur impose des normes ou des décisions.
C'est une très bonne interprétation, parce que si l'on regarde à la charte de l'ASEAN, le document fondateur de l'ASEAN, il y a vraiment une emphase très importante sur la souveraineté nationale, la non-interférence dans les affaires intérieures, et aussi le processus de décision en Asie du Sud-Est est consensuel. C'est-à-dire que contrairement à la politique étrangère de sécurité commune que nous avons en Europe, il n'y a pas de vote à la majorité qualifiée. S'il y a un problème, et cela arrive souvent, qu'il y a 10 membres maintenant dans l'ASEAN, et que 9 membres sont d'accord sur une politique publique ou une décision, et qu'un seul membre dit non, il n'y a aucun moyen de forcer ce membre ou d'avoir un vote à majorité. Le processus, c'est plutôt ok. Aujourd'hui, nous n'avons pas de consensus. Parlons dans 3 mois, et peut-être à ce moment-là, cet État membre va changer d'avis. Ou pas. Et dans ce cas-là, on parlera de nouveau une autre fois. C'est un problème assez récurrent dans l'ASEAN, qui a été critiqué non seulement par des diplomates européens, mais aussi des diplomates japonais. Que l'ASEAN n'est qu'un débat spectacle, qui n'est pas capable de prendre des décisions ou de s'y tenir.
D'accord, mais est-ce à dire qu'il existe tout de même, ou au contraire qu'il n'en existe pas, des politiques communes? Alors j'entends que c'est très probablement le cas dans l'économie, mais par exemple en ce qui concerne la géopolitique et la politique étrangère, est-ce qu'il y a des décisions communes? Il y a un pilier, mais y a-t-il vraiment une politique étrangère commune à l'ASEAN?
Nous ne devrions pas être trop critiques envers l'ASEAN. Je veux dire, beaucoup de mes collègues sont critiques envers l'ASEAN, mais je voudrais surtout souligner que si on faisait une sorte de classement des organisations internationales, il y en a beaucoup et elles sont sûrement très utiles, et je pense qu'on en a vraiment besoin. L'Union européenne est celle qui est intégrée le plus profondément, mais l'ASEAN est en deuxième place. Dans le sud global, c'est l'organisation internationale avec le plus de succès.
En ce sens, elle n'est par exemple pas comparable avec l'Union africaine, qui on va bientôt la traiter dans le podcast, mais qui est beaucoup moins intégrée.
Non, ce n'est pas la même chose. Il y a bien plus de membres. Mais pour l'ASEAN, quand vous regardez l'Asie du Sud-Est, c'est une région très très complexe, avec tellement de langues, de religions, de cultures. C'est pourquoi cela peut être assez similaire à l'Afrique. L'ASEAN apporte une unité dans une région qui est très hétérogène.
Alors je propose que maintenant on ouvre un peu le dossier de la politique étrangère de l'ASEAN, justement. Et le premier dossier, selon moi, est celui de la Birmanie ou du Myanmar. Alors on a enregistré un épisode, mais on ne l'a pas encore diffusé. Donc pour les auditeurs, on va simplement vous rappeler le fait que donc, c'est un État d'Asie du Sud-Est qui est membre donc, de l'ASEAN, qui a souvent subi des coups d'État. Et un dernier, très récemment, donc en 2021, a bousculé donc l'émergence démocratique qu'il y a eu. Il faut également rappeler le génocide des Rohingyas, ou également la figure de Aung San Suu Kyi. Donc vraiment toute une série de petits éléments. Ce qui est intéressant ici, c'est d'avoir donc la position de l'ASEAN à supposer qu'elle en ait eu une, puisqu'on a précisément vu ensemble que c'était parfois compliqué.
Oui, il est vraiment nécessaire de commencer à parler du Myanmar. Un exemple horrible de violation des droits de l'homme, la manière dont le régime militaire traite ses propres citoyens, c'est vraiment choquant. Pour rendre la chose encore plus compliquée, le Myanmar a toujours été une épine dans le pied de l'ASEAN. Car c'est un régime militaire, même si je restais plutôt optimiste après 2008. Il y avait vraiment des vraies réformes démocratiques sous Aung San Suu Kyi. Il y avait vraiment des côtés très positifs. Cependant, lorsqu'il y avait des coups militaires, les pays occidentaux étaient très critiques. Du Myanmar, avec raison, mais ils étaient aussi très critiques de l'ASEAN, car ils n'influençaient pas le Myanmar pour essayer de changer la situation. J'ai parlé à des diplomates de l'ASEAN, mais aussi à des académiques, qui voient ces critiques envers l'ASEAN comme injustes. La raison, c'est qu'ils sont très critiques sur la situation, surtout cette année passée, comme l'Indonésie et Singapour. D'un côté, nous avons les normes de l'ASEAN, qui sont la non-interférence, ce qui contraint l'ASEAN par ses règles. D'un autre côté, il faut reconnaître que c'est la Chine qui est sans doute le seul pays au monde à avoir un niveau d'influence sur le Myanmar. Ceci est expliqué par les diplomates des nations de l'Asie du Sud-Est à leurs collègues européens. Nous sommes critiques par rapport à la situation et nous essayons de faire de notre mieux, mais nous ne pouvons pas changer la situation.
Oui, et puis il faut aussi être honnête et rappeler que, par exemple, la Hongrie, ou pendant tout un temps la Pologne, était membre de l'Union européenne. On a critiqué, en tout cas Bruxelles critiquait souvent les politiques, notamment au regard des droits de l'homme de ces deux États, sans que nous parvenions à changer vraiment leur politique. Donc ne soyons pas non plus hypocrites dans la formulation des critiques à l'égard de l'ASEAN.
Ce
que je pourrais dire, c'est qu'une différence que nous exprimons plus si quelque chose ne va pas en Hongrie. En effet, la Hongrie est membre de traités européens. Il y a un système de cour internationale avec certaines sanctions. Mais ces sanctions sont impensables en Asie.
Et alors, corrigez-moi, et je rappelle à nos auditeurs qu'on a enregistré ce podcast dans le courant à la fin de l'année 2023, mais il y a eu des discussions, ou en tout cas un projet d'éjecter ou de faire sortir du coup le Myanmar de l'ASEAN.
Il y a des discussions en cours. J'ai été surpris et je ne suis pas sûr qu'elles aboutissent. Il y a toujours un système de décision au consensus. Mais si un pays viole les principes basiques, par exemple avec un coup militaire, nous devrions être capables de discuter de cette situation, de ce pays, et peut-être penser à un type de sanction ou quelque chose. Mais comme le Conseil de sécurité de l'ONU, quand un membre est assis à la table, c'est impossible. Ce format du 9+1, cela veut dire que dans le cas où il y a une discussion à propos du Myanmar dans l'ASEAN, la délégation du Myanmar doit quitter la salle et les 9 autres peuvent discuter. Et peut-être ils réussiront à trouver un consensus.
Et en ce qui concerne la politique étrangère toujours, vous nous avez expliqué que durant la guerre froide, les pays de l'ASEAN étaient plutôt pro-occidentaux, avec toutes les nuances que vous y aviez apportées d'ailleurs. Nous sommes maintenant dans un autre type de rivalité entre les États-Unis et la Chine. Est-ce qu'on peut dire que l'ASEAN est globalement pro-américain ou en tout cas pro-États-Unis?
Merci pour la question et je pourrais vraiment en parler pendant des heures parce que actuellement c'est vraiment mon domaine de recherche. Pour les nations de l'Asie du Sud-Est, la situation actuelle est assez difficile parce que dans leur région, ils ont une rivalité entre grandes puissances. Ils ont la Chine, ils ont les États-Unis. Et bien sûr, ils ont le système d'alliance mené par les États-Unis, avec le Japon, qui est un acteur fort, la Corée du Sud, l'Australie, l'Inde. Ils jouent tous un rôle majeur dans la sécurité régionale. Tout de même, les États-Unis restent le pourvoyeur de sécurité numéro 1 dans cette région du monde. Mais les autres pays ont aussi des accords de sécurité, avec beaucoup d'autres pays de l'Asie du Sud-Est. Donc il y a cette dimension de sécurité. Mais il y a aussi la dimension économique. Comme pour beaucoup de pays dans le monde, la Chine est le partenaire commercial principal des pays d'Asie du Sud-Est. Notons que ce n'est pas l'investisseur numéro 1, malgré le projet des nouvelles routes de la soie. Normalement, les pays occidentaux, l'Union européenne, les États-Unis, le Japon, sont des investisseurs de premier plan. Pour les pays d'Asie du Sud-Est, ils ont eu pas mal de succès jusqu'à présent avec leur stratégie d'équilibrage. En étant à côté d'une grande puissance, ou de former des contre-alliances contre le bandwagoning ou le balancing. Le hedging est une combinaison des deux. C'est un mélange. Et pour les pays d'Asie du Sud-Est, le défi stratégique majeur, c'est une ambiguïté stratégique. Ne pas choisir les États-Unis ou la Chine, mais essayer de coopérer avec les deux pour engranger des bénéfices des deux. Mais aussi utiliser l'autre ou des partenaires, c'est-à-dire omnidirectionnel, pour essayer de ne pas devenir dépendant en matière économique ou de sécurité.
Et à nouveau, on voit là l'intérêt de l'ASEAN, car en fait, ça paraît tout bête, mais avoir un endroit, un forum un tout petit peu, vraiment un tout petit peu institutionnalisé, où les différents pays peuvent parler de tous ces sujets un peu compliqués, eh ben, c'est utile, j'imagine.
C'est très utile, en premier lieu, pour les gouvernements des pays d'Asie du Sud-Est. Il faut vraiment mettre en avant que l'ASEAN, dans les années 90, a amélioré sa propre intégration, mais aussi l'ASEAN a réussi à mettre en place des institutions transnationales. Maintenant, nous parlons de l'Indo-Pacifique. Et si vous regardez les États membres de l'ASEAN, ils reflètent vraiment ce concept de l'Indo-Pacifique. Nous avons le Forum régional de l'ASEAN, qui fut fondé en 1995, et est le plus grand forum de sécurité dans le monde. La Chine en fait partie, les États-Unis en font partie, l'Union européenne en fait partie, et la Russie aussi. Nous avons tous les acteurs majeurs dans cette partie du monde qui font partie de ce forum. Nous avons aussi le ASEAN plus 3, qui fut établi en 1997 durant la crise financière. C'est l'Asie du Sud-Est plus la Chine, le Japon et la Corée du Sud. Et on a aussi, depuis le début des années 2000, le Forum de l'Asie de l'Est. Il fut mentionné quelques fois lors de la semaine passée, car c'est le lieu de réunion des chefs d'État. C'est-à-dire que normalement, le président des États-Unis y va, mais Biden n'y est pas allé. Et Trump non plus lors des dernières années. Ce qui fut perçu de manière très négative en Asie du Sud-Est. Obama avait vraiment soutenu cette initiative, alors que Trump négligeait vraiment les forums multilatéraux. Il y avait un fort criticisme en Asie du Sud-Est de cette approche-là. L'ASEAN a vraiment mis en place des plateformes de sécurité, des plateformes politiques et des plateformes économiques pour les pays de l'Indo-Pacifique afin qu'ils se rencontrent. Et cela s'est montré fort utile. Ce que je veux dire, c'est que jusqu'à présent, ils n'ont pas encore réussi à résoudre des conflits, mais au moins, c'est un forum pour les chefs d'État et de gouvernement. Les diplomates peuvent se parler. Et jusqu'à présent, cela s'est montré utile. Et un des succès majeurs, c'est que nous n'avons pas vu de guerre en Asie du Sud-Est depuis 1979, qui fut la guerre frontalière entre la Chine et le Vietnam. Et depuis lors, malgré les tensions en mer de Chine du Sud, il n'y a pas eu de confrontation militaire majeure.
Et enfin, est-ce qu'il existe des relations entre l'Union européenne et l'ASEAN, puisqu'on pourrait considérer que l'Union européenne, c'est peut-être un peu le modèle de l'ASEAN?
L'Union européenne et l'ASEAN peuvent se montrer très proches. Il y a quelques mois, l'ASEAN et l'Union européenne ont signé un partenariat stratégique qui renforce vraiment leurs relations officielles. Mais leurs relations datent des années 70. La politique de l'Union européenne, auparavant la communauté européenne, a toujours été de promouvoir la coopération régionale dans différentes parties du monde. Car il est toujours plus facile pour l'Union européenne de parler à une seule organisation régionale plutôt qu'à 50 pays africains ou à 11 pays de l'Asie du Sud-Est. Et c'est pourquoi il y a eu un support technique et financier, ainsi qu'un dialogue politique structuré, avec aussi des mécanismes d'échange. Il y a aussi eu des discussions pour un accord de libre-échange entre l'Union européenne et l'ASEAN. Je pense qu'il est encore pertinent, mais actuellement les discussions sont au point mort. Le problème, ce sont les exigences élevées de l'Union européenne concernant les droits de l'homme, les droits sociaux et le droit environnemental. Et je n'ai pas besoin de le mentionner à vos auditeurs, mais un autre problème, c'est l'huile de palme, qui provient d'Indonésie et qui est fortement critiquée par les consommateurs européens. Et donc ceci est vraiment un obstacle. Jusqu'à présent, l'Union européenne n'a réussi qu'à signer deux accords de libre-échange avec des nations de l'Asie du Sud-Est, qui sont le Singapour et le Vietnam.
Très bien, merci Alfred Gersel et merci aussi à Simon Relana d'avoir assuré votre voix française dans cet épisode. Merci à vous, chers auditeurs, pour votre écoute et n'hésitez pas à aimer cet épisode, à le partager et à nous écrire pour vos remarques, conseils, mais aussi nous demander de faire des épisodes sur des sujets bien particuliers. Au revoir.